Jusqu'à 22h, on aura la présence dans ce studio, en chair et en os, d'un des héros de ma jeunesse, Jean-Jacques Burnel, celui que j'hésiterai pas à présenter comme l'âme d'un des groupes les plus singuliers, singuliers et inimitables de son temps, la fin du siècle, et qui est toujours en vie. Impossible de raconter l'histoire de la musique populaire d'alors sans accorder à ce groupe une place de priorité. Comment ça, vous voyez pas de qui je veux parler ? Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Jean-Jacques Burnel, que j'ai plus encore que l'honneur et une vraie joie d'accueillir dans ce studio. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir.
Mais il y a tous les Stranglers dans ce titre, le son de basse profond, un peu reggae dub, qui vous caractérise, la guitare espagnole, votre instrument de formation, une sensibilité plus européenne qu'américaine.
Absolument.
Pas seulement dans les paroles et le titre, hein, European Female, mais la musique évoque beaucoup The Model de Kraftwerk. Et un léger côté jazzy qu'on pouvait trouver aussi chez les Doors. Et puis, il y a cette fausse douceur insidieuse, hein, dans le ton encore plus menaçante, peut-être qu'une violence ou une agressivité plus évidente. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ?
Oui. Affirmatif.
Bon, voilà, c'est tout ce que vous avez à déclarer. J'ai été très, très, plus que surpris, touché que vous écoutiez avec une espèce de recueillement ce que vous avez enregistré, quoi, il y a 40 ans déjà.
Yeah, c'est surprenant de écouter ça.
Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas entendu?
Oui, au moins 2 jours.
Bon, alors en effet, il s'est passé beaucoup de choses depuis.
Absolument. Si vous je vous explique, non, c'est un programme écouté par les mineurs, ça. Non, c'était l'idée au départ, c'était de juste faire rééquilibrer les choses parce que tout le monde visait les Américains, regardait, puisait chez les Américains, et puis il fallait, dans termes très simplistes, marier certains éléments européens. Oui. Le Nord, représenté par les industries, l'électronique, il y a des batteries électroniques dessus, mais c'est vraiment joué. Et aussi le Sud, plus agriculturel et acoustique.
Tu Avec sais. Le flamenco, oui, un peu. Oui. Alors, je rappelle brièvement pourquoi vous êtes là. Vous venez de publier chez un excellent éditeur, d'ailleurs il est là, Yves Jolivet, je le salue, et dans le studio, Le Mot et le Reste, un éditeur basé à Marseille, un épais recueil de conversations avec un historien d'art, mais pas seulement, un écrivain et musicien français, Anthony Boile, qui est avec nous. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Voilà, on va peut-être pas beaucoup parler avec vous malheureusement, mais parce qu'on a peu de temps, mais enfin je suis content que vous soyez là aussi.
Je suis content d'être ici également.
Ah bah voilà. Alors là, ça s'appelle Strangler in the Night, c'est vous qui avez trouvé le titre?
C'est un ami, Christophe, par qui je suis entré en contact. Il y a toute une généalogie par rapport à ça, des amis, d'amis qui m'ont fait entrer en contact avec Jean-Jacques.
Bon,
Christophe Meynier.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce titre, Jean-Jacques? Vous étiez tout de suite d'accord, vous avez hésité?
Oh, c'est un cliché.
Oui, bah, sans doute, mais...
Il y avait déjà un album Strangler qui a disparu complètement. Ouais. Stranglers in the Night.
J'avais oublié.
Et ça, c'est Strangler in the Light.
Voilà, bon.
C'est des jeux de mots.
Bon, enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu presque complètement. Je l'ai lu depuis quelques jours. Ça m'a touché, ça m'a fait sourire, ça m'a surpris, ça m'a captivé. J'ai appris plein de trucs. En plus, vous êtes très drôle et sacrément bavard. Parce que j'ai grandi, comme beaucoup d'amateurs de rock de ma génération, avec les Stranglers. Figurez-vous que j'ai vu, jeune étudiant, votre tout premier concert au Bataclan. Le 23 mai 1977, j'ai retrouvé la date.
C'est vous la personne qui était...
Alors voilà, c'est ce que je voulais dire, j'en ai gardé un souvenir. Il y avait quoi? Il y avait pratiquement personne dans la salle.
C'était vous?
Voilà, je crois qu'on devait être 40, 50.
Oui, peut-être, oui.
C'était angoissant, je peux vous dire, c'était vraiment angoissant d'être là-dedans.
On était habitué à ça.
moi non, enfin je sais pas. Je pensais, en fait, moi je lisais, j'étais très anglophile, donc je lisais le NME, et je pensais, je voyais tous ces trucs punk, je voyais des émeutes, je pensais que ça allait être pareil à Paris, mais tout le monde avait l'air de s'en foutre, quoi.
Enfin. Non, les émeutes sont arrivées plus tard.
Oui. Mais alors, quel souvenir vous gardez de ce concert?
Je me souviens complètement, on était surpris parce que on avait pris l'habitude d'avoir énormément de monde à nos concerts en Grande-Bretagne. Ouais. Et on commençait à sortir de la Grande-Bretagne. On arrive à Paris, c'est fantastique. Oui. Lumière, les belles filles et tout. Et puis, il y avait 2 personnes dans le public, dont une personne était toi.
Et je peux te dire, il y avait aussi une comédienne de l'époque, Myriam Mézière, qui était vraiment, qui m'impressionnait beaucoup. Il y avait un côté, une vamp un peu rétro, comme ça. Okay. Elle jouait dans des films un peu underground. Et je me souviens, elle mâchait un chewing-gum avec un air de se faire la gueule. C'était un peu, on en parlait, comme dans le film de Antonioni, Blow Up, quand il y a les Yardbirds, où tout le monde est comme ça, fait la gueule. Quelque chose. Et c'était. Et alors, il y a eu un moment tout à fait incroyable, et Anthony était là parce que j'en ai parlé une fois, je sais plus où c'était. Il y a eu le chanteur qui, à un moment, s'est massé la pomme d'Adam, longtemps, la gorge, et je comprenais pas pourquoi il faisait ça, et à un moment, il a carrément gerbé. Et pour moi, c'était le moment le plus punk que j'ai vécu de ma vie.
Oh, il y en a d'autres.
Oui, ben, non, mais bon, moi j'étais un gamin. J'étais plus un voyeur qu'un acteur. Hein, c'est pas
plus voyeur que voyou.
Oui, exactement. Ouais, j'étais pas voyou du tout. Moi.
Oui, c'était un morceau qu'on avait fait. Ce morceau était plus inspiré par des morceaux de Velvet Underground.
Et oui.
C'était un morceau plutôt sur une vraie histoire un peu. Que Hugh a été, quand on galérait, moi j'étais plongeur dans une boîte à Guildford. Hugh a été tuteur de chimique dans un collège, Et il a fantasmé un peu parce qu'il a été viré.
Ouais.
Parce qu'il fraternisait trop avec les écoliers, les étudiants.
Fraterniser.
Oui. Pas plus.
Il n'y avait pas de défloration.
Peut-être qu'il y avait des défloration.
Ah
oui.
Bon.
Mais oui. Et donc il a fantasmé un peu sur le fait que la maîtresse, la principale de l'école, l'a trouvé en train de déflorer des étudiants.
Oui.
Et donc ça représentait
la masturbation.
Oui, complètement, rien.
Yeah. Ouais, c'est ça. Et quand il crachait, c'était
bon,
l'éjaculation.
J'ai dû,
ouais.
J'ai dû apprendre à Hugh que c'est pas comme ça qu'on masturbe.
Il avait besoin de leçons, peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Bah, en général, c'est les femmes qui font ça. Mais enfin, pourquoi je raconte ça?
Pas forcément.
Ouais. Mais alors, je vais pas rappeler. Enfin, si je le rappelle, mais vite, parce que vous étiez le Frenchie des Stranglers. Mmh. Vous avez grandi dans le Surrey, la région verdoyante située au sud.
On a commencé. Ouais, je suis né dans Kensington, Chelsea.
Oui.
Dans Notting Hill, précisément.
Oui. Mais après, vos parents sont partis.
Oui, ils ont pris un restaurant dans le Surrey. Oui.
Voilà, un restaurant plutôt chic d'ailleurs, non?
Non, mais les Anglais le pensaient.
Et vos parents estimaient que c'était pas un restaurant haut de gamme?
Non, pas vraiment, mais tu sais, à l'époque, les Anglais savaient pas la cuisine.
Oui, ça c'est vrai, ça a beaucoup changé. Hein.
Ouais. Oui.
Ouais, ouais. Alors, vous savez, nous, ça nous impressionnait beaucoup qu'il y ait un Français dans un groupe punk de premier plan. C'était un sacré motif de fierté. En plus, vous étiez karatéka, vous posiez nu dans le New Musical Express, je me souviens, vous étiez ce bassiste agressif, vous étiez une vraie figure. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je vais pas vous interroger sur vos bagarres légendaires, sur vos phrases, vos blessures de guerre, vous en avez pas mal. Au fond, parce que le mouvement du punk rock, c'est vrai que ça a été une sorte de guerre en Europe, au début, c'est sûr, il y avait des hostilités. Bon, mais à mon humble avis, c'est pas pour ça que l'histoire se souviendra des Stranglers. Et je voudrais me concentrer sur la musique. J'ai réécouté, vite fait, des chansons des Stranglers qui m'ont marqué, il y a un truc qui m'a surpris. En fait, toute votre carrière, vous n'avez pas fait une seule chanson qu'on puisse assimiler à du punk rock. On prend No More Heroes ou Something Better Change, vos classiques de 77. En fait, on dirait plutôt des chansons des Doors en accéléré. Vous êtes d'accord ou pas avec ça?
Oui, je ne serais pas désaccord. Je ne renie pas. Yeah.
Ouais. Comment vous expliquez ça?
Au début, quand le mot punk a commencé à être répandu, j'ai identifié avec ça. Parce que ça nous donnait une liberté incroyable. Je croyais au début, mais très vite, il y a une nouvelle orthodoxie qui est arrivée et qui est suffocant. Et en plus, on a été ostracisés par le milieu. Au début, on faisait partie du milieu.
Ouais.
Et il y a eu des petits problèmes entre moi et le bassiste des Clash. Et puis, éventuellement, et ça a été public devant tous les journalistes de musique qui ont pris parti pour les Clash et les Pistols nous seuls. Donc, on a eu le droit de développer séparément du mouvement.
Ouais.
Et ça nous, dans le long terme, c'est une bonne chose.
Oui, c'est sûr.
Tu sais, quand il y a une nouvelle orthodoxie, c'est suffocant.
Ouais, c'est sûr. Mais il y a un dernier truc que je veux dire avant d'écouter autre chose, c'est qu'en fait, ce qui est frappant, c'est que les groupes punk, ils avaient l'air plutôt de lycéens morveux, etc. Vous y étiez, toi, t'étais le plus jeune, tu avais l'air plus d'un gamin, mais les autres avaient l'air de vieux. C'est ça qui me frappait. Ils avaient l'air de mecs, quoi, enfin, d'hommes, quoi, enfin, je sais pas comment dire, pas de jeunes.
C'est la même chose que les U2 ont dit.
Ah oui?
Ils ont dit, les Stranglers, c'était des hommes.
Ouais, mais c'est vrai. C'était bon, enfin, allez, on va écouter quelque chose d'autre.
A friend like him. likes to prey on my mind with his own special treat. I don't know when morning comes, it might not come today. Harry likes to play all night, I'll do what Harry says.
Vertigo Trip sur France Inter.
Oui, oui, don't bring Harry, I don't need him around. J'ai pas besoin de Harry, alors ne l'amène pas dans les parages. Harry, c'est-à-dire l'héroïne à l'époque, les initiés évidemment, comprenait une sorte de mise en garde, hein, si je me trompe pas, une chanson extraite du quatrième album des Stranglers, on en parlait hors antenne, de The Raven, sorti en 79. Une chanson très proche des ballades du Velvet Underground, on pense un peu à Pale Blue Eyes. C'est quand même curieux que vous, en particulier, vous ayez mis en avant votre, entre guillemets, européanité, alors que les deux groupes auxquels on pense souvent quand on écoute certaines de vos chansons, hein, parmi les plus connus, ben c'est deux groupes américains, les Doors et le Velvet Underground. Ça, ça tente peut-être à une explication.
Pas vraiment. Nos influences viennent de partout. Quand j'étais gosse, quand j'ai eu l'honneur, le plaisir d'être mis dans l'arrière dans un pub, voir les Fleetwood Mac de Peter Green devant 40 personnes avant leur tout premier disque, et voir les Free avant qu'ils se sont nommés les Free, ils étaient Black Cat Bones, parce qu'il y avait le blues boom.
Oui.
Et
Paul Kossoff. Ouais.
Voilà. Donc oui.
Free, ouais.
Dans Free,
un grand guitariste.
Et je voyais ça, ça m'a complètement bouleversé.
J'imagine, mais bon alors.
Et en plus, c'était illégal pour moi d'être dans un pub à cet âge. Parce qu'on n'a pas le droit, on n'avait pas le droit d'être dans un pub avant l'âge de 16 ans, accompagné par un adulte. Mais les garçons plus âgés me mettaient dans le coin.
Mais Fleetwood Mac, c'était un groupe londonien. Peter Green, c'était un guitariste anglais. Alors effectivement, le blues, c'est une vieille histoire londonienne, ça c'est sûr.
Oui, ouais, je crois que les Anglais ont découvert le blues, rhythm and blues, qu'on appelait à l'époque, et ils ont réexporté ça aux Américains.
Voilà.
Les Blancs qui ont découvert leur propre musique à travers les Britanniques.
Oui. Non, mais je faisais cette remarque parce que, voilà, vous avez fait cet album Euro Man Count, il y a y a beaucoup de choses un peu qui viennent de Kraftwerk, surtout quand c'est vous qui chantez avec cette voix un peu douce comme ça. Et quand même, il y a beaucoup d'influence américaine dans la version des Beatles. C'est ça qui...
Si tu fais le rock and roll,
oui, t'es obligé. Oui, non, mais ça,
des États-Unis déjà.
C'est sûr.
Et on le filtre par nous et puis on l'échange et on le réexporte.
Oui, non, mais il y avait quand même.
Si tu écoutes Pink Floyd, c'est un groupe de blues en fait.
Au début, oui. Oui, non mais je trouve, enfin rétrospectivement, parce que je suis un peu plus jeune, mais j'étais dans cette mentalité-là.
Tu le fais pas.
Oui, je fais plus vieux, je sais. Mais on était très anti-américains. Toi, t'as dit un truc du genre que les Américains avaient un plus petit cerveau que les Européens.
C'était juste pour voir leur réaction et j'ai eu des menaces de mort. Ils ont aucun sens du mot.
Oui, franchement, c'est décevant.
Non, il faut apprécier tout ce que la culture américaine nous a apporté depuis la guerre, mais il faut pas être submissif non plus.
Non, ça c'est sûr.
Et il faut découvrir sa propre identité à travers ça, à travers les influences qu'on subisse.
Mais est-ce qu'à un moment tu t'es senti français comme musicien?
Non, je me sens franglais comme musicien, européen comme musicien.
Oui.
Et je crois que c'est une idée la plus révolutionnaire. Et les gens oublient que c'est la première fois dans l'histoire de l'Europe qu'on a autant de paix pour si longtemps.
Ça, c'est sûr. On verra si ça va durer. Oui. Oui. Mais bon, alors, il y a quand même un truc que je voulais te dire. C'est que je me permets de rectifier un minuscule point d'histoire de la critique rock française.
Okay.
Tu dis que le magazine Rock & Folk n'a plus écrit une ligne sur les Stranglers après 79. Eh ben, c'est faux. J'étais alors encore gamin, on venait de me charger de la rubrique des singles, des 45 tours, et j'avais célébré la beauté exceptionnelle de la chanson qu'on va entendre sous une autre version, la très belle version qu'en a faite la musicienne américaine Tori Amos en 2001. Tu me diras ce que t'en penses. Alors, Jean-Jacques Burnel, que penses-tu de cette interprétation de Strange Little Girl signée Tori Amos en 2001, honnêtement? Quel est le verdict d'un des co-auteurs de cette chanson?
Pas mal.
Ouais. Je sentais une once de scepticisme. Qu'est-ce que, non mais franchement, qu'est-ce qu'elle réussit, qu'est-ce qu'elle rate, qu'est-ce qu'elle...
Ouais, non, c'est une interprétation, c'est tout.
Ah ouais, non mais c'est sûr, mais...
Donc.
Ouais.
Elle parle d'elle-même peut-être.
Mais tu la connais, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, elle a appelé l'album de reprise qu'elle a fait Strange Little Girls.
Ah oui, ah, ah, d'accord. Ouais.
Et tu connaissais la version ou pas?
Oui, je l'ai entendue une ou deux fois il y a longtemps maintenant.
Ouais, ouais, ouais. C'est une des premières chansons que vous ayez écrites en tant que Strange. Je crois que c'était en 74 que vous l'avez écrite celle-là.
Oui, peut-être. Hein,
74, ça, avec 75. Le Suédois qui était encore.
Oui, oui. Voilà. Hans Wormling.
Voilà, c'est ça.
Le feu.
Et pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant de la jouer? Parce qu'elle est de 80, elle est sortie en 82, vous l'avez écrite 8 ans avant.
Oui, mais parce qu'on a accumulé, comme tous les groupes qui commencent, vous accumulez plein de matériel et puis éventuellement vous avez l'occasion de les enregistrer.
C'est sûr, non mais vous pensiez qu'elle n'était pas assez
non,
punk?
Non, non ou... c'est, en fait, on s'est brouillé avec la maison de disques.
Ah oui.
Et, parce qu'ils refusaient de sortir un disque nommé Golden Brown.
Ben oui,
ils ont dit non.
C'est assez connu.
Oui. C'est, ils ont dit on peut pas danser à ce morceau parce que oui. Le timing oui, est différent oui. Et vous êtes fini de toute façon. Donc, oui. Mais on a insisté qu'ils sortent ce disque.
Oui.
Ils ont sorti le disque et ça a été un succès mondial malgré la maison de disques.
Oui.
Donc à la fin ils ont dit ben écoute donne-nous un autre Golden Brown et on dit va vous faire et donc ils ont dit ben donne-nous un morceau. On a dit, ok, alors on a puisé dans ce qu'on avait. Mm-hmm. Ah, on avait Strange Little Girl, on n'avait pas mis ça sur un album, ouais. Donc on a filé ça, fin de contrat.
Oui. Ils y croyaient ou ils y croyaient pas quand vous l'avez...
Ils savaient pas, tu sais.
Ouais.
Souvent les maisons disent, c'est pas mené par des gens qui aiment la musique.
Ça, c'est vrai. Ouais, ouais.
C'est une industrie, si tu veux, très professionnelle, qui gagne des fortunes, mais menée par des amateurs.
Ouais.
Souvent.
Beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, hélas, et je voudrais qu'on le mette à profit pour célébrer un musicien qui nous a quittés il y a 2 ans déjà, et qui a, bah, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, Jean-Jacques, c'est celui qui a apporté aux Stranglers une grande partie de leur diversité, de leur fantaisie musicale. Il y avait Hugh Cornwell, un chanteur guitariste qui était là jusqu'à 1990. Il y avait toi, il y avait Jad Black qui était vraiment le batteur et l'homme, pragmatique du groupe, et puis il y avait Dave Greenfield. Un virtuose des claviers, on le voyait jouer parfois sur au moins 4 claviers différents, hein, comme aux grandes heures de la musique progressive. Alors on a parlé de Ray Manzarek, moi je pense plutôt à Hugh Benton de Van de Graaff Generator.
Hein. Ah, ok.
Hein. Alors comment définirais-tu le rôle immense qu'a joué Dave Greenfield au sein des Stranglers?
Bah, c'est incroyable, c'est dès qu'il est rentré dans notre vie, ça a changé, ça c'était vraiment le son des Stranglers dès qu'il est rentré. Mais Dave était énormément est-ce que vous connaissez le mot geek?
Oui, oui.
Il était Asperger's, autiste.
Oui, oui, mais...
Et donc, c'était fantastique parce que il écrivait pas les morceaux, il jouait ce qu'on voulait qu'il joue. Et il interprétait nos idées. Mmh. Et donc, il n'y avait pas de compétition entre...
Il ne composait pas?
Non.
Mais les parties qu'il faisait, par exemple, la partie de Golden Brown, c'est quand même lui qui l'a trouvée.
Oui, mais c'était la version originale, c'était lui et Jet. Hugues et moi, on avait marre d'écrire tout. On a dit, bon, on va au pub, on revient dans 1 heure, et puis on verra ce que vous avez créé. Donc, il a créé un morceau qui avait peut-être une dizaine... C'était vraiment prog.
Oui, oui.
Il y avait une dizaine de morceaux dedans. Hugues et moi, on a tiré la plupart et on a créé Golden Brown.
Oui. Mais je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de gens vous critiquaient parce que vous aviez un clavier qui était prog.
Les punks, parce que c'était la nouvelle orthodoxie disait qu'il fallait pas avoir de clavier déjà, mais un synthé, mon Dieu, c'était une hérésie.
Et puis il faisait des solos.
Oui, oui.
Il faisait des solos. Oui. Il y avait quelque chose d'extrêmement ample. C'était romantique.
Oui.
C'était.
Mais on voulait pas suivre la ligne du parti.
Oui, ben heureusement,
Non.
Oui, oui.
Donc, et Dave était unique parce qu'il était autiste.
Ouais, ouais. Bon, alors, on arrive. Je suis vraiment triste parce qu'on arrive à la fin. Je rappelle votre très vivant livre d'entretien avec Anthony Bois, à la fois drôle et riche, Strangler in the Night, qui est chez
In the Light.
In the Light. Ah bah décidément, chez le Mot et le Reste. Oui, oui. C'est, bah oui, c'est sûr, c'est mieux. Et vous pourrez voir les Stranglers dans divers coins de France cet été, le 9 juillet à Neuve-Église, dans le Bas-Rhin, entre Strasbourg et Colmar, au festival Décibule. Le 12 août au festival Filet Bleu à Concarneau, c'est le sud de la Bretagne. Puis il y a une tournée française qui passera par l'Olympia à Paris en mars 2023. Merci infiniment Jean-Jacques. Je tenais avant qu'on se quitte à ce qu'on écoute ce titre extrait du nouvel album des Stranglers dont Baz Warn, un gamin de 58 ans, hein, un gars du nord-est de l'Angleterre, et depuis plus de 20 ans déjà le guitariste et l'un des deux chanteurs avec vous, Jean-Jacques Burnel, et vous chantez tous les deux cette très belle chanson And If You Should See Dave, si jamais vous voyez Dave.
Merci, bonne soirée.
Merci. Et voilà, on se quitte avec cette très très belle chanson qui est extraite du nouvel album des Stranglers, Dark Matters, qui s'appelle And If You Should See Dave, qui est évidemment dédié à Dave Greenfield. Merci encore mille fois Jean-Jacques Burnel d'avoir...
C'est moi qui vous remercie.
Merci, et puis également Anthony Boile qui était là. Hein, voilà,
au premier loge.
Voilà, merci, qui a fait un travail exceptionnel d'érudition, de curiosité. Enfin, c'est un livre vraiment très très passionnant. Vraiment,
merci,
je vous le conseille. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors, merci beaucoup à Stéphane Ronxin qui était... à la réalisation. J'ai pas à remercier le traducteur parce que Jean-Jacques parle français. Merci à Gilles Gaillard à la technique. Merci à Zorben Smiley et Romain Couturier.